Mani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Grogne sociale, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entame demain une grève de 13 jours. Des experts estiment que cette succession de grèves pourra impacter négativement la gestion de la transition. Fin de séjour du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Bamako. Une divergence est apparue hier entre le ministre français et le premier ministre malien sur la question des possibles négociations avec les groupes djihadistes. Un ressortissant américain résident au village de Massalakoni, au Niger, a été enlevé hier soir par 6 hommes armés non identifiés. Pour le moment, ce rapte n'a pas été encore revendiqué. À la présentation, Hamsi Toutouré, Gagné Kanté assure la mise en onde. Le front social est en ébullition. Depuis quelques jours, des protestations touchent plusieurs secteurs d'activité. Après les enseignants, le comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, le syndicat autonome des travailleurs civils, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entame demain une grève de 13 jours. Les grévistes exigent des avantages financiers. D'autres syndicats annoncent des mouvements de grève en début de novembre 2020. Ils exigent tous l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les détails avec Maliki Diallo.
Après une première grève de 72 heures au mois de septembre, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation entamera dès demain une nouvelle grève de 13 jours. Elle exige la satisfaction de ses 9 points de revendication déposés sur la table du ministère de la fonction publique depuis 2014. Le syndicat demande entre autres des primes allouées au personnel de certaines directions du ministère des Finances à ses militants, l'octroi d'un plan de carrière aux agents financiers du secteur de l'éducation. Aussi, il exige la révision du cadre organique des académies d'enseignement pour l'adapter au contexte actuel, faciliter l'accès des agents financiers aux études professionnelles. Les financiers du secteur de l'éducation ne sont pas les seuls à déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement. Les administrateurs civils ont eux aussi déposé un nouveau préavis d'une grève illimitée à partir du 9 novembre prochain. D'ailleurs, ces derniers observent un mot d'ordre de 15 jours depuis le 19 octobre. En plus donc de la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, les autorités de transition devront faire face aux demandes sociales de plus en plus nombreuses.
Pour certains observateurs, cette succession des grèves aura un impact négatif sur la gestion de la transition. Selon le politologue Daouda Traoré, cette ébullition du front social pourrait compromettre les résultats sur les plans et priorités assignés à la transition, notamment les plus importantes qui sont la sécurité et l'organisation des élections. Daouda Traoré est joint par Maliki Diallo.
Cette ébullition aura son impact sur la transition. En ce sens que on est dans une situation où le pays a besoin de tous ses enfants et surtout on a besoin de cette cohésion sociale là, que les uns et les autres soient dans la même logique et qu'on tire dans le même sens pour arriver à une transition réussie. Quand tout le monde ne voit pas dans le même sens, obligatoirement ça peut nuire à la transition. S'il faut faire face à tout ce chantier là en 18 mois, c'est du solide. C'est pas quelque chose de facile à résoudre. Que les uns et les autres comprennent qu'une transition n'est pas un gouvernement normal. Donc la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Un Américain résident à Birnikoni dans la région de Tawa au Niger a été enlevé par des bandits armés hier soir aux environs de 1h du matin. Selon le père de la victime, les ravisseurs sont venus chercher de l'argent dans la maison avant de procéder à l'enlèvement de son fils. Pour le moment, les ravisseurs n'ont contacté personne sur les modalités de la libération de l'otage. Pour plus de précisions, écoutons Bruce Walton, le père de la personne enlevée, au micro de Assoumana Moussa, correspondant du studio Kalangou depuis Koni.
Moi, c'est Monsieur Bruce Walton et je suis travailleur ici. J'ai une entreprise pour fabriquer le fromage à Coni. Il y avait dans la nuit 6 hommes qui sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philippe Walton. Il cherchait de l'argent dans la maison, mais il n'avait pas assez de l'argent. Il n'avait que quelques 20 000 francs. Donc, suite à cela, ils sont partis avec lui. Ils parlaient Hausa entre eux et ils essayaient de parler Hausa avec Philippe, mais ils connaissaient quelques mots anglais comme « sit down » qui « bring money ». C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont été tous les 6 armés.
Le procès de l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu, le restaurant La Terrasse et l'hôtel Biblos a débuté ce matin à la cour d'appel de Bamako. Les deux principaux terroristes, dont Fawaz Ould Ahmed, principal accusé dans l'affaire de La Terrasse, et Sadou Chaka, alias Oussama, également accusé d'avoir commandité l'attentat du Radisson Blu de novembre 2015, ont paru devant la cour d'assises. Fawaz Ould Ahmed est accusé d'avoir perpétré l'attentat du restaurant La Terrasse et commandité celui du Radisson Blu qui ont respectivement fait 5 et 22 morts. Le jugement continue ce mercredi 28 octobre 2020 à la cour d'appel de Bamako. En visite au Mali, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a fermé la porte à un possible dialogue avec les groupes terroristes. Le Drian n'a laissé place à aucune ambiguïté sur le sujet. Toutefois, le Premier ministre de la Transition a souligné que le dialogue national inclusif avait très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Ali Cissé.
Après la signature de plusieurs conventions de coopération, des divergences sont tout de suite apparues entre Paris et Bamako sur un possible dialogue avec les djihadistes. Pour le ministre français, il n'est pas question de négocier avec les djihadistes. Pour Jean-Yves Le Drian, les choses sont simples et claires. Il y a des accords de paix. Il faut mettre en œuvre les accords de paix. Ce sont les accords de paix qui font la paix. Ils ont été validés par un certain nombre de signataires, dont des groupes armés signataires. Et puis, il y a les groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. À ses côtés, le premier ministre de la Transition a répliqué que le dialogue national inclusif a très clairement indiqué la nécessité d'une offre de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Mokhtar Wane estime qu'il faut voir dans cette possibilité de dialogue une opportunité d'engager une vaste discussion avec les communautés afin de définir le contour d'une nouvelle gouvernance des espaces. Pour rappel, en février 2020, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avait annoncé l'ouverture de canaux de discussion avec certains groupes armés djihadistes. Fin septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait dit « Il y a des groupes avec lesquels on pourra discuter » qui auront intérêt à s'engager dans ce dialogue pour devenir des acteurs politiques du futur.
La situation reste toujours tendue à Farabougou, localité située dans le cercle de Niono, région de Ségou. Selon des sources locales, les populations du village ne peuvent pas vaquer à leurs occupations à cause de la présence des djihadistes aux alentours du village. Les mêmes sources indiquent que la médiation du dimanche et lundi pour tenter d'aboutir à un règlement pacifique du problème à l'origine du conflit n'a pas encore abouti. Selon elles, les pourparlers ont repris ce matin entre les djihadistes et les chasseurs de la localité. Le problème financier des médias et le rôle qu'ils doivent jouer dans le processus électoral était hier au cœur des discussions entre le ministre de la Communication et les responsables de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. La rencontre a eu lieu au siège de l'URTEL à Amdalaï Asseïa. Plus de détails avec Issa Oumar Togola.
Pour le ministre de la Communication, le rôle des médias est d'une importance capitale, non seulement pour la bonne conduite de la transition, mais aussi et surtout pour la couverture de la période électorale. Selon le ministre Amadou Touré, le traitement et la diffusion des informations justes et impartiales peuvent nous conduire à des élections crédibles et transparentes. Amadou Touré, ministre de la Communication.
C'était une rencontre pour mettre le point sur l'importance des médias, et en particulier les radios privées, dans le processus qui va nous conduire aux élections libres, transparentes et acceptées par tous.
De son côté, le président de l'URTEL, Bandjoukou Dante, tout en appelant au professionnalisme des médias maliens lors de cette période électorale, a insisté sur l'accompagnement que l'État doit faire aux médias, notamment les fonds alloués aux médias qu'il juge trop peu. Bandjoukou Dante, président de l'URTEL.
Nous avons parlé essentiellement de la concurrence dont les médias souffrent aujourd'hui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui accordent 5 milliards à leur pays. Il y a le Burkina à tout près de nous qui donne 2 milliards. Ce pays n'a pas plus de moyens que nous. Mais chez nous, ce n'est pas indexé au budget d'État. Ça dépend du bon vouloir du prince du jour. Le président du jour, s'il est content des médias, de leur comportement, de leur conduite, il essaie de donner 200 millions.
Enfin, les échanges entre le ministre et les hommes des médias ont porté sur la dépénalisation des délits de presse. Si pour certains, les discussions doivent avancer sur cette question, d'autres estiment que les pénalités financières peuvent dissuader certains abus.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Plus de 800 000 francs CFA, c'est le coût de réparation des châteaux d'eau des écoles Monzondiara, de Wolokotoba et du second cycle Ake Tolodo de Koulou, dans la commune rurale de Koula, cercle de Koulikoro. La somme est entièrement financée par l'association Koulakanou. Selon les responsables de l'association, il s'agit de soutenir et d'encourager les élèves à poursuivre les études dans des conditions d'hygiène acceptables. À Gao, deux hommes armés non identifiés à moto ont braqué hier un livreur de pain aux environs de 20h au quartier Aljana Bandia. Selon des témoins, le livreur de pain a été dépouillé de ses biens, argent et téléphone. Les bandits, après leur forfait, ont pris la fuite, rapportent les mêmes témoins. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hamse Toutouré à la mise en œuvre de Gagny Kanté. Restez à l'écoute dans un instant, la question A. Le Mali disposera bientôt d'un projet d'amélioration de la filière d'Anacard. L'information a été communiquée par le coordinateur du programme gestion décentralisée des forêts GDFOR. C'était la semaine dernière à l'occasion de la semaine européenne de la diplomatie climatique célébrée dans la commune de Mandé, région de Koulikoro. Les responsables du programme indiquent que l'Anacard est une plante presque méconnue par la majorité des Maliens. Le colonel-major Mamadou Salif Kone, coordinateur du programme GDFOR, répond aux questions de Imran Akilou Maïga.
GDFOR 3 est la suite de deux autres projets.